bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Élise au micro, une maman française installée à Milan, en Italie, depuis son enfance. Elle nous raconte donc ce que c'est que d'être un enfant expatrié, mais également sa vie de femme immigrée en Italie. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Élise.
Bonjour. Bonjour Cindy.
Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast.
Merci à toi.
Écoute, j'aimerais bien, avant qu'on démarre, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille.
Alors, je m'appelle Élise, j'ai 36 ans, je vis à Milan en Italie, enfin maintenant plus précisément en périphérie de Milan en Italie. Ouais. Je vis ici depuis que j'ai 11 ans, donc voilà, je suis arrivée, on va dire, pas pour ma propre volonté, mais j'ai choisi de rester. je suis mariée avec Giorgio et nous avons trois enfants. Sofia, qui aura 9 ans en juillet, Jules, qui aura 6 ans en octobre, et Lola Rose, qui vient d'avoir 2 ans.
Waouh, une belle tribu, hein.
Oui, oui.
Et puis on peut voir déjà que tu as pris quand même l'accent italien hein, depuis quelques années.
Ça c'est rigolo, tu vois, il y a des gens qui me le disent et en fait je me rends pas compte. Enfin donc mais effectivement, tu n'es pas la première qui me le dit, donc ça doit être vrai en fait.
Bah Giorgio, moi je dirais Giorgio quoi.
Ah oui, mais c'est parce que là il y tient quoi. Donc quand je parle avec ma mère, sincèrement, je l'appelle Giorgio. Mais ça passe pas. Ça passe pas. Alors je me suis dit que voilà quoi, pour lui rendre hommage, le pauvre, vu qu'il est en train de gérer les trois kits, je me suis dit bon allez, je vais dire son nom de façon correcte. Vu qu'en plus je m'énerve avec les Italiens quand ils écorchent le nom de mon fils qui s'appelle Jules, qui est très difficile à prononcer pour eux. Donc voilà, je me suis dit voilà, si je m'énerve avec eux parce qu'ils prononcent mal Jules, donc là je me dois de bien prononcer George.
Mais comment ils disent Jules? Roule.
Non, c'est plus Joule. Alors la prononciation vraiment littérale, ce serait Jules, ce qui est un petit peu ouais. Très très loin de mon Jules.
Je comprends que ça énerve.
Mais les Italiens ont beaucoup de problèmes avec le U de toute façon. Alors le je ça va, mais le U pour eux c'est très compliqué.
Ok, écoute, alors tu le mentionnais très très brièvement, mais alors tu nous disais que tu es arrivée en Italie quand tu avais 11 ans, et oui. En fait, je trouvais ça très intéressant d'essayer d'axer un épisode sur un enfant expatrié, oui. Donc qui était ton cas en fait, et d'essayer de comprendre un peu ton background familial, mm-hmm. et les raisons en fait qui avaient poussé déjà dans un premier temps tes parents à s'installer dans un autre pays, et ensuite toi en tant que femme, voilà, de vouloir rester potentiellement ou non dans ce pays. Alors j'aimerais bien, avant qu'on démarre, que tu nous fasses un petit background français, à oui. savoir un peu, voilà, de remonter un peu dans tes racines, de comprendre un peu le background culturel de tes parents, et de savoir un peu ce qui les a poussés à venir bien s'installer sûr. En Italie.
Alors écoute, moi je suis née à Amiens. J'ai pratiquement jamais vécu à Amiens en fait. J'ai vécu à Creil en Picardie. J'ai grandi là-bas en fait jusqu'à mes 11 ans quoi. Mes sœurs sont nées là-bas aussi. Moi je suis donc nous sommes trois filles à la maison. Ah. Donc j'ai deux sœurs, c'est une famille de filles la nôtre, tu vois. J'ai que des cousines filles, enfin c'est vraiment c'est le girl power en puissance. Donc mon père travaillait, donc était à l'époque ingénieur dans une grande entreprise française. Okay. Et en fait, on n'avait jamais vraiment évoqué même. Bon alors après, mes souvenirs sont forcément ceux de d'enfants. Maintenant, oui. Je peux pas savoir si mes parents entre eux avaient déjà évoqué, mais sincèrement, je ne pense pas l'idée de partir à l'étranger. Et voilà, donc mon père étant ingénieur donc dans une grande entreprise française, il voyageait beaucoup en fait pour son travail. Déjà à l'époque, je me rappelle quand j'étais enfant en fait, on le voyait plus le week-end, la semaine. Il était souvent parti en fait beaucoup à l'étranger, ouais. Énormément, ouais, il a énormément beaucoup voyagé. Donc il est arrivé un moment en fait où voilà quoi, j'ai compris qu'on parlait beaucoup de l'Italie quoi. Lui allait souvent en Italie. En plus pour le coup, quand j'étais à l'école primaire, je me rappelle, j'avais une institutrice qui était d'origine italienne. Et alors, sur le moment, en fait, je m'en rendais pas compte. Mais c'est vrai que mon papa souvent me disait, bah tiens, je suis allée en Italie, j'ai ramené ce gâteau traditionnel, si tu veux, tu le donneras à ta maîtresse, ça lui fera plaisir. Et voilà, donc c'est vrai qu'en fait, on avait déjà cette attache un peu avec l'Italie que moi, j'avais forcément pas capté à l'époque, quoi. Mais voilà, avec maintenant, je peux pas savoir si on parlait déjà d'expatriation ou pas. Je crois savoir qu'en fait, il a eu beaucoup d'offres en fait d'expatriation dans divers pays qu'il a refusé. Et il arrive à un moment en fait de sa carrière où en fait, il a jugé que voilà, c'était le moment et que pour lui, c'était peut-être la meilleure chose à faire au niveau professionnel. Et, ouais. Et donc voilà, quoi, je me rappelle qu'on a commencé à parler de l'Italie. Au début, ça semblait vraiment être un jeu, quoi. C'était voilà, c'était des mots comme ça, des pensées. Et puis ça a commencé à devenir concret jusqu'au moment où voilà où on a su mes sœurs et moi que voilà on aurait changé de pays, quoi. Et à l'époque, j'étais en sixième. Donc voilà, en fait, j'ai fait en France que la sixième au niveau du collège.
D'accord. Et sachant que tu es l'aîné, toi, de la famille, c'est ça ?
Oui, oui, oui. Alors, moi, j'avais donc à l'époque 11 ans. La cadette avait, devait avoir 8 ans, je pense, si mes souvenirs sont bons. Et la petite était en maternelle, elle avait 4 ans, je pense, parce que voilà, elle a fait une année ou deux, je sais plus. Non, je pense une année de maternelle en Italie.
Bon, elle ne devait pas capter dans tous les cas ce qui lui arrivait.
Non, je pense pas.
Mais alors, vous parliez italien à la maison?
Pas du tout.
Non, c'est, je veux dire,
pas du tout.
On est sur un chemin, on parle que français, quoi.
Ah oui, on était, enfin, famille, j'oserais dire, traditionnelle française. Enfin, voilà, limite l'anglais, moi, je l'apprenais parce que j'étais en sixième, donc forcément, quoi, c'était la première approche à l'anglais, mais c'est tout. Enfin, voilà, nos connaissances de langue étrangère s'arrêtaient là, donc, et non, absolument pas du tout. Alors, ce qui est drôle, justement, la petite histoire, c'est que, en fait, quand j'ai appris que, pourtant j'étais déjà grande, enfin grande, j'avais 11 ans quand même.
Oui.
Mais quand j'ai appris qu'on aurait déménagé en Italie, je sais pas pourquoi, je m'imaginais dans ma tête qu'on serait partis et qu'on aurait tous commencé à parler italien, quoi. Et que nos prénoms seraient traduits même en italien. Je sais pas, je me faisais des films hallucinants. Ouais, ouais, c'est bizarre. Parce que pourtant j'étais pas si petite que ça, quoi. Mais dans ma tête, je sais pas, ça faisait que.
Ça faisait partie du fantasme. Ouais.
Ouais, je pense, je pense.
Mais alors toi, comment tu te sentais à l'idée de quitter la France et j'imagine du coup tes copines, tes copains, tout ça, quoi?
Alors au début, il y avait un petit peu d'euphorie, un peu de peur, un peu de curiosité, un peu d'euphorie. Et après, par contre, je l'ai très, très mal vécu. En plus, voilà, forcément, j'étais la plus grande des trois. Donc voilà, j'étais déjà, c'était ma première année de collège, j'avais ma meilleure amie, j'avais vraiment voilà quoi, beaucoup d'amis, beaucoup d'attaches.
Oui.
Et en fait, ce qui était pire, je pense, c'était vraiment l'idée de quitter l'appartement. Enfin, c'était, en fait, on se rend compte à ce moment-là qu'on a un cocon, quoi. On grandit dans un cocon un peu. On a nos habitudes qui semblent en fait normales en fait dans la vie de tous les jours. On s'en rend pas compte parce que c'est la normalité. Et quand en fait on doit tout quitter, on se retrouve vraiment perdu, quoi. Et surtout quand on quitte donc sa maison, sa ville, ses habitudes pour l'inconnu et pour le coup pour un pays étranger, parce que comme je te disais, voilà, on parlait pas du tout l'italien. Mon père faisait des cours, donc lui non plus. Enfin, il parlait un petit peu, mais pas beaucoup. Alors il s'amusait à nous faire des petits cours à la maison, quoi. Mais alors, au début, c'était sympa. Après, quand ça a commencé vraiment, voilà, ça a été le moment, quoi. Moi, je l'ai assez mal vécu. Alors, au début, j'ai essayé de le prendre un peu comme une vacance, quoi. Comme des vacances, comme un changement un peu,
temporel,
un peu sympa.
Ouais.
Et effectivement, on arrive là-bas, c'est l'été. On avait une maison qui était effectivement carrément beaucoup plus jolie que l'appartement qu'on avait en France. C'était autre chose. Donc, mais alors en plus, on est arrivé en août. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Italie, en août, il fait très très chaud. C'était désert. La maison était encore forcément déserte aussi. Donc, c'était très difficile.
Et c'était dans quelle ville alors, du coup, vous vous étiez mis?
Milan.
Milan aussi.
C'était Milan. Oui, oui.
Oui, donc, mais alors, ils vous avaient même pas proposé un cours d'italien ou t'avais jamais mis un pied en Italie, c'est ça?
Voilà. Alors, sincèrement, je peux pas tellement savoir s'ils nous avaient proposé un cours d'italien ou pas. Je pense pas. Après, mes parents nous avaient inscrites à l'école française. Donc, en fait, pour nous, ça, à leurs yeux, je pense, ça ne changeait pas grand-chose. Oui et non, parce qu'effectivement, l'école était totalement en français. Donc,
d'accord.
En fait, ça n'a pas été. En fait, au niveau scolaire, si tu veux, ça n'a pas été un énorme changement. Enfin, au-delà du, voilà, du changement de ville, de pays, etc.
Ouais. Donc, tu dirais que vous vous êtes quand même imprégné petit à petit de la culture italienne ou vous êtes resté dans une sorte de un micro-village français à Milan?
Alors, oui et non. Dans ce sens, alors, pour la petite anecdote encore, quand on est arrivé à Milan, au début. Ouais. Donc on était en août et puis bon voilà, on savait pas trop encore, il fallait qu'on prenne nos marques si tu veux. En plus ma maman ne conduit pas, n'a pas de voiture, donc quand il y avait mon père, voilà, on prenait la voiture, on allait un peu, on se baladait. Quand on était que toutes les quatre, voilà, on faisait à pied, mais bon, ouais, ma mère était aussi un peu vraiment dépaysée au début, ce que je peux comprendre d'ailleurs, c'était assez difficile. Et bien, bon, je répète, en août, en Italie, c'est mort, quoi. Enfin, c'est vraiment mort de chez mort, quoi. Donc, en plus, il fait tellement chaud que là-bas, les magasins ouvrent à partir de 3h30, 4h même. Ouais. Même 4h, je dirais. Ce qui était très bizarre pour nous, parce que, voilà, en France, c'est pas comme... Alors, après, ils ferment très tard le soir aussi, mais oui, c'était l'après-midi, si tu veux. Oui, ça change de Creil, pour le coup, oui. Et au début, donc, on cherchait banalement un supermarché, quoi. Et celui qui était plus près de la maison était en fait un petit discount. Et alors, tu sais, le genre de discount où il n'y a pas les marques que tout le monde connaît, quoi. Ouais. Donc, on est arrivé là-bas et on s'est dit, oh là là, mais ça y est, en Italie, en fait, il n'y a rien du tout de ce qu'on connaît en France. Et c'était le drame. C'était, tu vois, les céréales, les biscuits, le chocolat. Il n'y avait rien. C'était que des marques bizarres. Bon, alors après, on a compris après que c'était un discount et qu'il y avait d'autres magasins avec les mêmes marques qu'on avait en France, qui des fois avaient des noms différents, mais c'était les mêmes. Mais voilà, alors au début, ça a été... et je me rappelle qu'on a fait genre le petit-déj pendant une semaine avec... on avait acheté des pop-corn, du thé à la pêche. Oh. Et on disait, mais ces Italiens, ils vivent vraiment bizarrement, quoi.
Quand même, j'ai de la sympathie pour ta mère, quand même, parce que sans permis, ouais, non, ne c'était pas connaître la langue avec trois enfants difficile. Quand même en bas âge... Ouais. Parce que tu me dis, comment ça s'appelle, la Benjamine et en maternelle.
Ouais. Oh. Oui, non, c'était difficile. Alors, au début, en fait, si tu veux, quand j'imagine que, alors je ne peux pas le savoir parce que moi, je n'ai été qu'en Italie, mais j'imagine sincèrement que c'est un petit peu comme ça dans le reste du monde. C'est que dès que tu arrives donc à l'école française, on a plein d'associations françaises. Donc, il y a l'association des parents d'élèves, l'association des mères, le café par-ci, le café par-là. Okay. Et donc, ma mère, au début, forcément, ne connaissant personne,
bien sûr.
Bah, elle a essayé un petit peu, voilà, quoi, de se faire un peu des amitiés, de se faire connaître. Mais ça a été très dur pour elle, si tu veux, parce que c'était vraiment, en fait, on passe d'un extrême à l'autre, quoi. C'est vraiment on peut appeler ça un peu des clubs, des clans très fermés. C'est vraiment les Français à l'étranger. Il y a que des Français. Et on a l'impression qu'en fait, qu'ils s'intègrent pas du tout. Alors, ma mère, ouais. Je pense qu'elle avait, au début, avait un peu de problème à s'intégrer. Bon, alors, déjà, il y avait la barrière de la langue, forcément. Le fait que bon bah elle en plus en quittant la France, elle avait quitté aussi son travail, sa carrière, donc voilà, elle a tout laissé quoi pour partir à l'étranger. Et bon, on peut être contente de tout ce que tu veux, mais c'est vrai que c'est dur quoi, ça veut dire de en fait laisser oui, derrière soi une vie voilà, bien exactement. Dans un pays où on ne connaît absolument pas la langue, donc voilà. Donc, en fait, elle a essayé un petit peu de s'intégrer. Petit à petit, mes parents ont eu aussi des amitiés de parents d'élèves, en fait, des parents d'enfants qui étaient dans nos classes, donc dans la mienne, dans celle de mes sœurs, etc. Mm-hmm. Mais toutes ces initiatives, en fait, qui étaient organisées pour les Français à l'étranger, pour ma mère, ça a très vite été difficile parce que c'était pas du tout... Et puis, c'était un milieu souvent très bourgeois, très... et en fait, elle se retrouvait pas là-dedans, quoi, du tout.
Ouais.
Donc, ça a été assez difficile.
Mais c'est ce que les gens oublient, c'est que genre, c'est pas parce qu'on est français qu'on va forcément s'entendre, quoi.
Voilà, exactement. Pas, et puis, voilà. Et puis, en fait, il y avait un peu toute cette, en fait, cette organisation qui peut être sympa au début, mais c'est vraiment, quoi, voilà, on organise donc le week-end, il y a Monsieur Dupont, Madame Dupuis qui partent en France. Bon, alors, je vous ramène, alors, par exemple, en Italie, il n'y a pas les cahiers avec les lignes qu'on a en France, quoi. C'est complètement différent.
Et on...
voilà, exactement. Et on n'en trouve pas. Et à l'école française, ben, on utilise ça, quoi. Donc, alors, il y avait, voilà, quoi, les voyages organisés. Je ramène ci, je ramène ça. Bon, alors, ça peut être utile. Mais il y avait aussi tout un tas de produits. Alors que, bon, on est quand même en Italie, je veux dire. Oui, ça, ça va. On peut très bien vivre avec ce qu'on trouve en Italie. Alors, au début, c'est clair qu'il y a une partie de nostalgie, en fait, qui joue beaucoup, qui joue énormément. Donc, on est content, en fait, de retrouver un peu, un petit peu de chez soi, un peu de pays, quoi. Mais au bout d'un moment, ça devient vite un peu exagéré, quoi.
Ouais.
Donc, c'est vrai que mes parents ont pris un peu les distances de tout ça.
Et puis, j'imagine qu'ils ont appris petit à petit à apprendre l'italien, non ?
Oui, alors bah mon père forcément très vite parce que bah travaillant ici c'était un peu obligé.
Pas de bras, pas de chocolat, ouais.
Voilà. ma mère a mis plus de temps. Elle a mis on va dire je vais dire beaucoup de temps, ça serait pas gentil mais elle a mis quand même quelques temps, ce que je peux comprendre. Elle avait de toute façon, elle avait beaucoup d'amis françaises ici, donc parce que au-delà de ces groupes un peu de parents français à l'étranger, après voilà, elle a lié, enfin, elle a tissé des liens d'amitié avec avec plusieurs mamans, avec donc voilà après, donc en fait, dans sa journée était surtout en français. On avait la télé française en plus. Voilà, elle avait rencontré, il y avait le primeur qui était juste à côté de chez nous. La dame adorait la France, elle parlait français, donc c'était super.
Oui, elle avait pas de raison valable entre guillemets de
voilà plus tard par contre en fait elle a trouvé un boulot à l'école française et ça a été un peu la renaissance pour elle quoi, donc banalement en fait elle travaillait à l'école française donc elle n'avait pas non plus énormément de raisons de parler l'italien, mais ça l'a aussi un peu je pense que ça l'a beaucoup aidée et de là en fait tout est parti quoi. Elle a beaucoup plus appris l'italien, elle s'est beaucoup plus intégrée. Je pense que pour elle, de retrouver un travail, ça a beaucoup joué. Boosté, et puis nous, on grandit ici en plus.
Ouais, j'imagine bien. Et toi alors, et tes sœurs, comment vous vous habituez petit à petit à... Parce que attends, vous partez, mais vos parents, ils vous avaient dit on part pour quelques années ou on part pour toujours? Oui.
Ah non, non. Alors au début, c'était expatriation classique. Donc c'était on part pour 3-4 ans, quoi. Donc c'était... voilà. Effectivement, on avait gardé notre appartement en France. Et alors, nous, il faut savoir aussi que pour les premières années, alors on sait que le cursus scolaire français, on a quand même beaucoup de vacances. Mmh. Et à chaque vacances, nous, même si c'était 3-4 jours, hein, on repartait en France, quoi. Donc, on avait notre appartement, on repartait à Creil, quoi. C'était, pourtant, c'est pas non plus l'endroit le plus exotique
du
monde.
The place to be.
Pas trop. D'ailleurs, j'ai amené des amis italiens à Creil, attention.
Ouh là là.
C'était waouh. Et donc ouais, donc dès qu'il y avait des vacances, on repartait. Après bah, forcément ça a commencé un peu à s'estomper, mais au début c'était voilà, on était parti que pour 3-4 ans. Après voilà, mon père a changé de travail et ça s'est allongé d'autres 3-4 ans et puis bah, au final ça a été du définitif.
Ouais.
Mais alors aussi ce qui est bizarre à l'école française, si tu veux, quand on commence, c'est que je ne sais pas si c'est pareil dans les autres écoles françaises à l'étranger, mais ici, en fait, alors, donc, effectivement, l'école est en français, les cours sont en français, les profs parlent en français, dans la cour de récréation, c'est l'italien. C'est dingue.
C'est marrant.
C'est que, ouais, c'est hyper marrant, c'est très, très bizarre. Et moi, en fait, je me sentais complètement perdue, quoi, en fait, vraiment. Alors, je suis arrivée, et puis, pour la petite histoire, en fait, il y a vraiment, parce qu'il y a énormément aussi d'Italiens, en fait, qui fréquentent l'école française. On va dire que, donc, on a les expats français.
Et les élites. Entre guillemets,
voilà,
c'est ça.
Exactement. Alors, les élites d'un peu tous les pays, hein, français, d'autres pays même, les enfants joueurs de foot, les gens un peu, voilà, donc l'élite.
Ah, et par contre, l'élite. Les enfants d'ambassadeurs, ce genre de choses.
Ah, aussi. Voilà, aussi. Ouais. Là, c'est l'élite, alors l'élite française, ouais, c'est ça. Par contre, on a aussi les Italiens, quoi. Les Italiens de bonne famille, on va dire, dont les parents veulent que les enfants parlent une autre langue, et voilà, ils ont choisi le français pour.
D'accord.
Pour ce raison. Et donc, en fait, c'est vrai qu'on avait plusieurs niveaux, quoi. On avait les nouveaux, donc les petits novices qui parlaient que français, forcément, ou d'autres langues parce qu'ils arrivaient peut-être d'autres pays aussi. Mmh. Après, on avait les Français qui étaient, voilà, quoi, maintenant enracinés un peu en Italie, donc qui parlaient totalement couramment l'italien, et les Italiens. Et c'est vrai qu'au début, on a un petit peu, quand on arrive, on voit que les copains, quand ils veulent pas, en fait, qu'on comprenne que le nouveau comprenne ce qu'ils disent, parler en italien. Il y a énormément de gens qui, devant moi, par contre, au début, parlaient genre l'italien. Moi, je comprenais rien du tout, quoi.
Ouais.
Donc, ça a été un peu, ouais, il faut vraiment un moment d'initiation, quoi. Et un moment d'adaptation aussi. J'ai eu énormément de chance parce qu'en fait, j'ai connu vraiment les premiers jours une fille de ma classe qui est devenue ma meilleure amie, qui aujourd'hui d'ailleurs est la marraine de ma fille.
Ah, purée, waouh.
Ouais. Bah maintenant c'est voilà quoi, c'est je la considère vraiment comme une sœur quoi.
Bah tu m'es et elle donc elle est
Donc,
la moitié de ta vie quoi, clairement.
Exactement, ouais. Bah d'ailleurs sa fille s'appelle en fait elle comme deuxième prénom, elle s'appelle Élise comme moi. Donc ouais, enfin, c'est une belle histoire.
Une belle attention, ouais.
Et donc elle est italienne à 100% mais née en France, donc ses parents après on voilà, on fait le choix de la mettre à l'école française. Et donc, pour le coup, en fait, étant italienne, en fait, voilà, elle ne partait pas. Je l'ai compris après, au fur et à mesure des années, que c'était une grande chance pour moi d'avoir trouvé cette amie qui resterait, quoi. Par contre, mes sœurs ont eu beaucoup moins de chance. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que souvent, on se lie d'amitié avec, avec des enfants qui, voilà, au bout de 3, 4, 5 ans, partent, quoi.
Oui. Mais ça doit être encore plus dur, quoi, parce que déjà, tu te déracines et t'essayes de construire... Tu vois, c'est ça que j'entends beaucoup, c'est les enfants sont flexibles, les enfants s'adaptent, mais...
Jusqu'à un certain point.
Ouais, quand même, changer d'amis tous les 3 ans, ça doit être quand même assez, assez difficile, quoi.
C'est dur, surtout, tu vois, ça dépend à quel âge, c'est sûr, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, quand on est assez petit... On a tendance à dire les enfants s'adaptent, les enfants se font des amis. Et c'est vrai, parce que voilà, même ma sœur qui a perdu beaucoup d'amis comme ça, voilà, elle s'est fait d'autres amis et elle a retrouvé, grâce aux réseaux sociaux qui sont arrivés par la suite, elle a retrouvé aussi ses premières amies, quoi. Ouais. Mais il y a eu un moment où je me rappelle très bien, on était toutes les deux dans sa chambre, elle s'est mise à pleurer, désespérée, parce que elle avait appris voilà, l'énième déménagement d'une de ses amies. Et c'est vrai que c'est dur, quoi. C'est dur parce que, surtout à un certain âge, tu vois, quand on arrive un peu à l'adolescence, où les amis sont hyper importants, quoi. Mmh. Et voilà, quoi, d'avoir ce problème ou de se dire, je m'attache à quelqu'un, mais ça va être pour combien de temps ?
Oui. Personne n'en parle, mais tu penses, toi, que ça crée un souci d'attachement aux autres ? Le fait vraiment quand même de voir ces gens partir tous les 3 ans ?
Je pense. Je pense un peu qu'on a un certain recul. Après, tu vois, on connaît quelqu'un, on s'attache, mais avec un petit moment de réserve, oui, je pense. Ouais. Alors après, voilà, il y a du bon aussi, dans le sens où... bon, alors pareil, maintenant, c'est parce que maintenant, on a les réseaux sociaux et on arrive à se retrouver, ce qui était moins facile il y a quelques années, par contre, il faut le dire aussi. Mais ce qui est sympa après, c'est voilà quoi, on se retrouve, on voit ce que chacun est devenu, etc., etc. Donc dans un sens, ça peut être enrichissant aussi. Mais sur le moment, c'est assez dur et effectivement, ça dépend à quel âge. Voilà, je pense que l'important c'est ça. Et mais en fait, moi, à travers un peu les expériences de ma sœur, par exemple. Je me suis rendu compte que effectivement moi j'avais eu énormément de chance parce que ça a été le hasard quoi en fait
oui.
On s'est choisi avec cette amie et on est devenus vraiment quoi meilleurs amis et ça a été très important aussi pour moi au niveau même de la de l'insertion un peu dans le milieu italien en plus elle était italienne donc elle s'y connaissait quoi banalement tout ce qu'il y avait parce que ce qui est un peu bizarre aussi c'est que souvent on se retrouvait un peu entre deux. C'est-à-dire que moi, comme je te disais, à la maison, on regardait la télé française, on ne parlait que français. Donc, moi, je faisais arriver des fois, si j'arrivais, des journaux de France. Donc, en fait, voilà, quoi, toutes un peu les stars, les gossips, etc., j'étais axée sur la France. Ce qui se passait en Italie, beaucoup moins, quoi. Après, par contre, j'ai commencé un peu à balancer vers l'Italie. Mais donc, on a toujours un peu ce... On ne vit pas tellement l'Italie à 100%. Mais on vit plus non plus la France à 100%. Donc on se retrouve un peu au milieu des deux.
Ouais.
Voilà, exactement. Et c'est vrai que d'avoir pour moi une amie, un guide, c'était hyper important. Et avoir quelqu'un en fait qui te suit tout le long de ta croissance, qui grandit avec toi, qui connaît toutes les expériences que tu as faites parce qu'elle les a fait avec toi. C'est ça qui est important. Alors que quand on change comme ça tous les 3 ans, il faut repartir à zéro à chaque fois et c'est pas facile. Et puis des fois, voilà, il y a les souvenirs aussi. Ah, tu te rappelles quand ? Ah bah non, t'étais pas là. Toi, t'es arrivée en quelle année déjà ? Enfin, il y a tout ce changement un peu qui est un peu difficile à gérer selon moi.
Puis on va pas se le cacher, la relation change nécessairement.
Exactement.
Quand tu te vois moins, quoi. Enfin...
Exactement. Ah ben moi je l'ai vu aussi parce que je te disais, donc on repartait en France tout le temps. Donc en fait, j'avais ma meilleure amie de France aussi. avec qui bah, j'avais grandi, quoi, que je revoyais tout le temps, quoi. Et au fur et à mesure des années, et bah, on s'est, ouais. maintenant, si tu veux, on s'est perdu de vue. Enfin, voilà, on est mis sur Facebook, par exemple, mais on se, voilà, on s'est totalement perdu de vue. Parce que forcément, après, il arrive un moment où tu grandis, où justement, pendant l'adolescence, tu commences à vivre tes expériences d'ado. Et quand, bah, tu les vis à des milliers de kilomètres, bah.
Oui, ou quand voilà, t'es pas là quoi. Pour les vivre en day to day.
Exactement. C'est exactement. Là, au début, on se raconte. Mais après, même tout ce qu'on se raconte, prendre la distance, et puis voilà, quoi, il faut le vivre, en fait. Quand on ne vit pas les mêmes choses ensemble, ça, c'est pas pareil.
Ouais. Et alors, donc j'imagine que la vie suit son cours. Tu as ton bac en poche. Oui, vu que tu es au lycée français, j'imagine qu'ils appellent ça un bac. Ouais.
Oui, oui.
Qu'est-ce que tu décides de faire? Parce que c'est là où tu arrives en études supérieures. Est-ce que tu décides de rentrer en France ou est-ce que tu te dis non, maintenant, voilà, ma maison, ma vie est en Italie?
Alors, juste aujourd'hui, j'étais en train de parler de ça avec un ami, tu vois, c'est rigolo.
Ah, c'est bon.
Un ami italien d'ailleurs que j'ai connu, d'ailleurs c'est un de mes premiers fiancés, pour la petite histoire, que j'ai connu quand j'étais encore au lycée. Et il me disait en rigolant, c'est rigolo en fait, parce que si tu penses, toi, t'étais la seule qui disait, mais finis l'école, mais je me rentre en France, quoi. Dès que j'ai mon bac, je rentre en France. Et j'étais effectivement la seule de mes sœurs qui répétait ça, mais qui rabâchait ça à l'infini. Et au final, je suis la seule qui restait. Donc, c'est... il m'a dit ça aujourd'hui, je fais, oui, c'est vrai, en effet, c'est rigolo. En fait, donc pour la petite histoire, donc je voulais travailler dans la mode. Ouais, j'avais décidé que je travaillerais dans la mode, donc bah c'était
la
Paris.
La capitale. Ah c'est Paris, voilà. C'est pas Milan.
Non ah bah alors ça c'est attention, les Français disent que c'est Paris, les Italiens disent que c'est Milan, donc c'est pour ils moi on va dire que mon côté chauvin sort quand même.
Donc toi tu penses que c'est Paris?
Oh, ça dépend pourquoi. Bon, après moi je suis très attachée un peu à la haute couture, tout ce qui est Dior, Chanel, donc voilà. C'est Paris, quoi. Après, l'Italie est autre chose. Tout ce qui est, cuir. Enfin, ça, c'est un autre, c'est un autre débat.
Non, mais moi, je trouve que j'ai l'impression que le savoir-faire. Okay, si tu parles de savoir-faire, ok, c'est France. Mais si tu parles de qualité, moi, je vois plus l'Italie. Mais bon, bref, c'est un autre débat.
C'est un autre débat, mais oui. Non, alors, on va dire que la haute couture, pour moi, la haute couture, c'est Paris. Il n'y a pas photo. Voilà. Après, pour la mode, effectivement, comme tu as dit, pour tout ce qui est cuir, accessoires, etc., etc., je pense qu'il vaut mieux se tourner vers l'Italie. Enfin,
donc,
bref. Donc,
faire des études supérieures à Paris ou à Milan, alors?
Alors, j'ai le grand dilemme. Parce que, voilà, je suis donc, en terminale et il faut que je me décide quoi.
Ouais.
Et alors là d'un côté il y a dans ma tête l'idée de rentrer en France, d'aller à Paris, de vivre un peu même toute seule si tu veux, de m'émanciper un peu au final.
Oui.
Donc très très alléchant quand même comme idée. Clair. De l'autre côté ça veut dire je laisse tout le monde parce qu'en plus étant la première c'est moi qui commence quoi, c'est forcément mes sœurs étaient encore à l'école. Donc c'est je laisse tout le monde quoi, je rentre et je fais ma vie. Et là le gros drame de ma vie parce que c'est difficile quoi en fait, ça veut dire un autre en fait dans ma tête je voyais ça encore comme un autre déracinement si tu veux.
Oui.
Parce que alors que ça pourrait être je rentre au bercail un peu dans un sens. De l'autre côté c'était oui d'accord mais en fait moi donc j'habitais à Creil, j'habitais pas à Paris donc Paris c'est quand même l'inconnu. Alors en plus ce qui est un peu bête parce que j'ai une tante qui pour le coup travaille dans la mode à Paris donc j'aurais pas été quand même toute seule.
Ouais.
Mais voilà quoi, dans ma tête c'était une énorme décision, ça pesait très très lourd. Et en fait j'ai décidé au final, je me suis dit bon alors c'est ou Paris ou Milan, donc Milan je suis déjà là donc ça changerait pas grand chose. Paris c'est le grand changement. Et je pense que j'ai pas eu le courage. Au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est aussi du courage. Bon, alors après, voilà, il y avait les amis, les attaches, les parents, la famille. Pas le courage, en fait, de tout laisser. Pas le courage encore de déménager. Pas le courage, de recommencer, en fait. Voilà. Je pense que c'est ça. Et je me suis dit, bon, je vais commencer ici. On verra après.
Oui, et puis t'as pas de regrets aujourd'hui.
Non,
look
pas du
back,
tout.
Ouais.
Pas du tout.
Et alors, attends, donc tu décides de faire tes études supérieures à Milan. Mais par contre, ta famille, elle, peu à peu rentre en France ou tes sœurs, tout du moins, c'est ça?
Alors non, pas tout de suite en fait. Tout le monde reste ici. Alors mes sœurs étaient encore collège, etc., etc.
Oui.
Après, mes sœurs ont fait leurs études supérieures ici aussi. J'ai okay. la sœur cadette donc qui a fait pharmacie à Milan.
Okay.
Et par la suite, elle a rencontré son mari à la fac de pharmacie. Et elle l'a ramené en France. Donc, elle est partie en France, du coup. Elle a ramené un Italien dans ses bagages. Et la plus petite, par contre, a fait une école d'esthétique à Milan.
Ouais.
Et puis après, par contre, a décidé de rentrer en France. Mais un peu comme ça, quoi. Pour commencer un peu sans projet vraiment établi. C'est mais ça. Je pense pour vraiment un désir de rentrer en France. Et peut-être en étant la plus petite, elle avait un peu vraiment, elle, par contre, un désir un peu d'émancipation, quoi. De plus être la petite de la famille, je pense.
Ouais, je peux comprendre. Mais et tes parents, eux, sont restés aussi en Italie?
Alors, mes parents sont restés en Italie. Mon père, donc, entre-temps, donc, je te dis, avait rallongé, en fait, son expatriation.
Oui,
et puis après, voyant qu'il y avait un problème, en fait, voilà, enfin, pas de problème, mais que l'entreprise n'allait pas tellement. En fait, il a compris que c'était le moment de changer. Et donc, il a été embauché dans une entreprise italienne. Donc, voilà, quoi. Là, à ce moment-là, on avait su que… voilà, que notre vie…
Dedans, quoi. Ouais.
Voilà, que notre vie aurait été en Italie. Ma mère, comme je te l'ai dit, donc travaillait à l'école française, donc elle avait maintenant voilà quoi une carrière, elle avait sa vie, elle était plus active, enfin ça allait mieux quoi. Par la suite, mes parents ont divorcé et donc mon père en fait maintenant habite à Turin, il n'habite plus à Milan parce que son travail en fait l'entreprise était Turin, donc il faisait Turin-Milan toutes les semaines, mais bon c'est vrai que c'était assez loin, donc maintenant il est à Turin. Okay. Et ma mère a décidé voilà de rester ici et de continuer son boulot à l'école.
Oui, donc je comprends que tu avais pas la volonté de rentrer en France quoi. Enfin, vu que tout le monde
est
là.
J'ai toujours été assez attachée à la famille. En fait, je peux pas, enfin, je voudrais dire que j'ai un grand sens de la famille, je dis pas que mes sœurs ne l'ont pas, attention. C'est différent, je pense que on a des envies différentes. Enfin, moi je me rends compte par la suite, en fait, que du coup, j'ai un peu adopté le modèle italien, quoi. La famille, la tradition, la famille a grandi. C'est vrai que les Italiens vivent beaucoup en famille. On a les grands-parents qui sont là, qui sont vraiment partie active de la famille. Et moi, j'aimais bien, je pense, ça me rassurait un peu ce modèle d'avoir tout le monde à côté de moi, en fait.
Ouais. Non, je comprends bien. Mais alors, donc, du coup, j'imagine que si tu fais tes années supérieures, tu t'améliores en italien.
Oui. Oui, ben carrément.
Pour quelques en fait, arguments masculins.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça parce qu'en plus, forcément, quoi, faisant l'école française, ayant des amies françaises, ben oui. C'est clair que voilà quoi, mes sorties, etc., étaient en français. Quand on a commencé à avoir des voilà quoi, des amis, des copains italiens, ben là, forcément, le niveau d'italien, carrément, s'est amélioré très vite.
Écoute, j'ai eu le même souci avec l'anglais, hein, ne nous le cachons pas.
Donc, c'est une bonne méthode, on peut le dire.
C'est une très, très bonne méthode. Et alors, quand est-ce que tu rencontres ton mari?
Alors, ben écoute... beaucoup plus tard, hein, parce que donc mon premier fiancé dont je te parlais était donc italien. Ensemble, on est associés maintenant d'ailleurs, parce qu'on a monté notre boîte ensemble, un journal de mode pour la petite histoire. Et voilà.
Ouais.
Et bon, après voilà, l'histoire s'est terminée entre nous et en fait, on était beaucoup plus amis qu'autre chose. Donc c'est pour ça qu'on est toujours amis. On est toujours amis, toujours associés, mais voilà,
non,
l'histoire
bon
s'arrête
équilibre.
Là.
Ouais, bien
exactement.
Sûr.
Et en fait, en sortant avec des copines françaises d'ailleurs, qui habitaient hors Milan, là où j'habite actuellement, un jour on a décidé d'aller sonner chez les voisins parce qu'on a vu qu'ils faisaient une petite fête entre garçons, quoi. Nous, on était entre filles, on s'est dit mais pourquoi pas unir les deux fêtes ensemble en fait. et c'est là que j'ai rencontré mon mari actuel.
D'accord. Donc j'imagine.
Mon mari actuel, pas que j'en ai eu d'autres.
Hein. Non.
Dit comme
donc
ça.
J'imagine l'italien local, quoi,
oui,
milanais,
carrément.
C'est ça?
Ah, on carrément.
Dit ça, on dit milanais.
Carrément, ah oui, dans toute sa splendeur. Oui, oui.
Et alors, à quel moment vous décidez d'étendre, vous, votre famille?
Alors, en fait, c'est un peu particulier comme histoire parce que on ne décide pas, en fait, d'agrandir
la ville,
d'agrandir la famille. On va dire que la famille s'est agrandie malgré nous. en retour d'un voyage aux États-Unis d'ailleurs pour le coup.
Ah.
Donc on était jeunes, voilà. Quoi. Moi j'habitais encore chez ma mère parce que bon mes parents étaient donc divorcés, donc j'habitais chez ma mère. Lui habitait chez ses parents. Et voilà quoi, un jour il y a eu un test de grossesse positif. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, à l'époque, on était vraiment juste en train de commencer à regarder pour aller vivre ensemble, mais vraiment comme ça, quoi. Et tout s'est accéléré, en fait. Donc,
des fois, il faut un petit coup de pied aux fesses, comme ça, tac, tac, pour lancer la machine.
Exactement, oui. C'est vrai. Alors, ça a été assez dur au début, parce que, voilà, on s'y attendait pas, et c'était effectivement pas les conditions idéales, on va dire. Maintenant, moi, j'avais 27 ans, donc il arrive un moment où on dit, bon, c'est bon, j'ai pas 20 ans, c'est pas...
Oui.
Bon, après, voilà, je juge
non,
pas.
Non, il n'y a pas de jugement, bien sûr, mais tu as
absolument,
t'as
non.
ta vie ou...
Voilà, on va dire que quand on est très, très jeune, on peut se poser des questions, se dire, est-ce que c'est le moment, est-ce que j'ai pas encore des choses à vivre dans ma vie de jeune fille avant d'eux, tu vois.
Bien sûr.
Là, moi, voilà, j'avais vécu ma vie de jeune fille, j'avais déjà 27 ans, je travaillais, lui aussi... On commençait déjà à parler de vivre ensemble, donc voilà, donc ça c'est fait, mais bah du coup on est devenus parents avant de vivre ensemble quoi en fait.
C'est bien, ça forge.
Bah oui, ça. Remarque, il n'y a pas eu de crise, rien du tout, parce que de toute façon, on n'a pas eu le drame du changement de vie, genre la vie de couple tout seul et la vie de couple de parents. Non, nous on a eu tout le paquet ensemble en fait.
Mais c'est très bien.
Voilà, comme ça, il n'y a pas eu le temps de se se poser trop de questions.
Mais alors. Comment ça se passe à Milan, les accouchements? J'imagine que quand même, c'est pas le tiers-monde.
Non, alors, non, voilà. Mais tu as bien fait de me le dire, parce qu'il y a un petit peu, dans l'esprit français, en fait, il y a vraiment cette idée. C'est-à-dire que moi, quand j'étais à l'école française, et même après, parce qu'en plus, j'ai un petit peu travaillé aussi à l'école française après, quand j'étais étudiante, pour ouais. arrondir les fins de mois, comme on dit. Je faisais la surveillante. Et donc, je fréquentais encore tout ce milieu français, vraiment. Et il y avait vraiment cette idée de, voilà, l'Italie, oh non, la santé en Italie, genre, il faut rentrer en France, quoi. Dès qu'on a quelque chose, on rentre en France. Et donc, dans ma tête, si tu veux, j'ai commencé un peu à paniquer, quoi, en me disant, j'imaginais vraiment, dans ma tête, que c'était le tiers-monde, quoi. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Il va falloir que je rentre en France. Paniquer, quoi. Surtout que, en plus, on n'avait pas prévu cette grossesse. Donc, étant donné qu'elle soit arrivée comme ça à l'improviste, eh ben, oui. Il fallait tout de suite, en fait, on n'avait pas de plan B, quoi. C'était, il fallait tout de suite y aller, quoi. Mm. Et alors, j'ai commencé à regarder des épisodes, genre d'accouchement, etc. Et je regardais ça, et c'était une émission qui se déroulait à Rome. Alors, il faut savoir que l'Italie, par contre, est un pays qui n'est pas vraiment homogène. Plus tu vas dans le sud, et plus effectivement, voilà, quoi, on va dire que la santé, les infrastructures sanitaires laissent vraiment à désirer.
D'accord.
Milan, par contre, enfin, tout le nord de l'Italie, hein, pas que Milan, est vraiment à l'avant-garde. Mais je le savais pas, en fait, je me rendais vraiment pas compte. Donc, j'ai commencé, de toute façon, je me suis dit, voilà, il n'y a plus de temps, il faut que je commence à me faire suivre, donc de toute façon, ouais. Je vais y aller, quoi, j'y vais.
Mais alors, comment ça se passe, un suivi de grossesse?
Alors, bon, moi, j'avais choisi d'avoir un gynéco privé, donc, okay. Parce que je me sentais plus sûre de cette façon. Et bah en fait très moderne. Alors j'ai pas de comparaison en France si tu veux parce que forcément oui. J'ai jamais eu de suivi de grossesse en France. J'avais été chez une gynéco en France parce que forcément les premiers rendez-vous ma mère m'envoyait en France parce que nous aussi on avait cette idée que non attention pour les visites un peu les suivis un petit peu comme ça délicats il valait mieux aller en France. Et donc en fait j'avais déjà été chez la gynéco en France mais voilà quoi après j'ai eu mon suivi en Italie, et ça s'est très, très bien passé.
Oui, et donc finalement, tu as arrêté de te faire suivre en plus en France, non?
Ah oui, carrément. Bah, alors après, oui, de toute façon, pour la grossesse, je ne me suis jamais fait suivre en France, si tu veux. J'ai arrêté d'avoir un peu cette idée même, cette idée un peu bizarre, un peu folle, de me dire, sait-on jamais, je pourrais aller accoucher en France, quoi. Non, pas ouais. du tout. Pas du tout.
Et alors, les accouchements, je veux dire, donc du coup, tu étais en clinique privée, j'imagine si c'est un gynécologue privé.
Non, en fait. Alors, non. En fait, ce qui se passe, c'est que je ne sais pas si c'est pareil en France, pour le coup, ou à l'étranger. C'est-à-dire que moi, j'avais donc un gynécologue privé qui était dans un hôpital. Alors, par contre, c'était un hôpital qui n'était pas à Milan, c'était en province de Milan. Et alors, ouais. Très bêtement, vraiment, je me disais, non, mais je veux que ma fille naisse à Milan, quoi. Je veux que sur sa carte d'identité, il y ait écrit Milan, pas une petite ville de province. Et donc je lui avais dit cache quoi. Et il avait rigolé quoi. Il m'avait. Alors en plus, en Italie, de toute façon, le gynéco ne t'accouche pas. C'est-à-dire que ce qu'il me disait, parce que je disais, oh, je suis un peu désolée de pas aller dans votre hôpital, parce que c'est vrai que j'aimerais bien être suivie par vous jusqu'au bout, mais j'aimerais bien justement me faire accoucher par vous. Mais et il me disait, mais de toute façon, si. Voilà. Et donc il me disait en rigolant, mais vous savez, de toute façon, si vous me voyez le jour de l'accouchement, c'est pas bon signe. Donc il vaut mieux que vous ne me voyez pas. Je dis bon, bah voilà.
J'ai fait la même blague à mon gynéco là il y a 2 semaines.
C'est vrai.
Mais oui, parce qu'il me dit oui, alors, parce qu'il commence à me parler, bah, de, vu que là, j'étais sur la fin. Il me dit oui, alors, je fais, mais de toute façon, moi, de ce que j'ai compris, si je te vois le jour J, faut que je me pose des questions, quoi. Je suis à la limite, si tu viens pour me dire bonjour, il n'y a pas de problème. Exact. Si tu viens pour me dire que mon enfant est magnifique, ok. Mais si je te vois pendant
arriver comme ça, c'est pas bien, non, c'est pas bon signe.
Non, mais alors, non, par c'est contre, pareil aux États-Unis.
Ah, tu ouais. vois. Parce que par contre, ma sœur a accouché donc la semaine dernière et elle m'a dit qu'en fait, voilà, quand son gynéco est venu au moment vraiment de la naissance, quoi, et que donc apparemment c'est assez courant, quoi. Tandis que nous, non, pas du tout.
Mais peut-être parce qu'il n'avait pas de. Je crois que les gynécos, ils se gardent vraiment s'il y a des urgences, des cas de césarienne, oui. des trucs comme ça, oui. quoi. Mais oui. sinon, ils laissent ça aux sages-femmes, je pense. Même
voilà,
France.
Exactement. Bah, voilà. Et ici, c'est comme ça, quoi. C'est les sages-femmes qui accouchent et. Si le gynéco arrive, c'est pas bon signe, généralement.
Ouais. Et alors, tu penses que tous tes 3 suivis de grossesse, comme tes 3 accouchements, se sont bien passés, je veux dire, il n'y a pas eu de problème particulier?
Alors, oui et non, mais ça n'a pas été dû à... Enfin, c'est... Disons que le premier accouchement a été donc provoqué, mais bon, parce que j'avais trop de liquide amniotique, enfin voilà.
Ouais.
C'est un truc un peu banal, mais ça s'est très très bien passé, vraiment, un accouchement. Mais si j'en repense, si j'y repense encore, j'ai les larmes aux yeux. Le second, malheureusement, a terminé en césarienne, parce que mon fils était en biais, en fait. Donc, il n'arrivait pas à descendre tout seul.
D'accord.
Donc, ça a été voilà, un peu césarienne, ce qu'ils appellent ici césarienne d'urgence. Je ne sais pas si ça se dit oui. en français, d'ailleurs.
Non, oui, ça se dit pareil. Ouais. Ouais.
Et donc, voilà, donc, ce qui était comme ça. Et je l'ai très, 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 très mal vécu, mais vraiment très mal. Et la troisième, j'ai eu donc un accouchement par voie basse après césarienne qui s'est super bien passé aussi.
Ah, ouais. Ça, c'est cool. Mais oui, parce que j'ai l'impression qu'ils ne le disent pas assez que ce n'est pas parce que tu as accouché la première fois ou la
Exactement.
Deuxième fois par césarienne que... Celle qui Exactement. Suit doit nécessairement aussi se suivre d'une césarienne, sauf cas, bien entendu, médical, quoi.
Exactement, exactement. Non, non. Et d'ailleurs, je dois dire que, alors, j'écoute pas mal de podcasts, etc., en français, pour le coup, et c'est vrai que je me rends compte que maintenant, en France, on est vraiment axé sur ce qu'ils appellent accouchement physio, naturel, etc., etc. En Italie, c'est, alors, entre guillemets, on va me pardonner cette expression, mais on va dire que c'est un peu à la mode, entre guillemets, mais depuis beaucoup plus longtemps, en fait. D'ailleurs, c'était un peu les Français disaient que c'était un petit peu barbare, quoi. C'est pour ça qu'on disait en fait non, en Italie ils sont barbares, il y a pas de péridurale, bah, c'est pas vrai. Enfin, moi j'ai eu la péridurale 2 fois ouais. sur 3, quoi. Donc parce que je l'ai demandé la deuxième, non, parce qu'on m'a dit que quand je suis arrivée, on m'a dit que j'allais accoucher dans la minute, mais bon, après 6 heures après, on m'a fait de césarienne. Mais ça c'est autre chose. Mais sinon j'ai toujours eu la péridurale. Par contre, c'est vrai qu'ils sont plus axé sur l'accouchement naturel, mais ça depuis très longtemps, quoi. Je pense depuis plus longtemps que la France, sincèrement.
Ah bah c'est bien de le savoir, ça. Ouais.
Ouais, ouais. Et bon, après j'avais choisi aussi un hôpital que je savais être plus axé sur justement sur
la physio.
Sur ouais. voilà sur ce côté. Bon après physio oui, mais moi j'ai voilà quand j'ai voulu la péridurale, je l'ai eu. Donc il y a pas d'acharnement si tu veux ni d'un côté ni de l'autre, hein. Mais par contre, oui, on encourage en fait la femme à ce côté naturel, et c'est pour ça que quand j'ai voulu un accouchement par voie basse après la césarienne, à tous les coups, quoi, je le voulais vraiment, vraiment à tous les coups. On m'a beaucoup encouragée, on m'a beaucoup aidée.
Bon, bah c'est super. Et le post-accouchement, l'accompagnement une fois que t'as accouché en Italie, comment ça se passe?
Alors, j'ai l'impression, alors pareil, je n'ai jamais accouché en France, donc je ne sais pas, mais j'ai l'impression, par contre, ça c'est un petit peu plus light, on va dire. Alors, par exemple, ouais. voilà, pour la pour ma troisième, alors ça s'est très bien passé. Par contre, je suis restée beaucoup, beaucoup de jours à l'hôpital, parce qu'en fait, j'ai eu un petit problème à la vessie. Ma vessie avait été un petit peu endommagée, on va dire, par l'accouchement. Mm. Et donc, j'ai dû avoir un cathéter, etc., etc. J'avais aussi un petit peu de problème au périnée. Et si tu veux, en France, je sais que voilà, quoi, la rééducation du périnée, c'est quelque chose de courant, quoi. C'est normal. Ici, ouais. Pas du tout.
Pareil aux non. US. Tu vois, j'ai... Ben, il faut que j'en parle avec mon gynéco, là. Mais visiblement, c'est des kinésithérapeutes. Oui. C'est même oui. pas des sages-femmes ou des gynécologues.
Ici, ça a été, voilà, quoi. Moi, on me l'a proposé après, en fait, parce que, voilà, suite à ce que j'ai eu, on me l'a conseillé, même si après, mon gynéco m'a dit qu'en fait, ça allait, j'en avais pas besoin, et bon, tant mieux, hein. Et tant mieux parce que, enfin, je dis tant mieux parce qu'il y a eu la pandémie entre temps, et que donc, c'était beaucoup oui. plus compliqué d'aller à l'hôpital facilement. Et, mais en fait, voilà, on m'avait conseillé donc tout un cycle de cours de rééducation du périnée, mais en fait, en théorie, c'est en plus, quoi, c'est payant. Enfin,
ouais, c'est de ta poche.
Si on veut le faire, on le demande et ok, mais il faut que ce soit vraiment la jeune maman qui fasse la démarche, en fait.
Ouais. Nous, ils ne nous en parlent pas, jamais aux États-Unis. De toute façon,
tu vois.
Je pense qu'ils nous voient une pareil. Fois après 6 ou 8 semaines, une fois que tu as accouché et c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire,
Ah oui, bah alors nous, ici, on a. Non, pas du tout ici. Alors. Ici, si tout se passe bien, si l'accouchement se passe bien, on reste voilà 2-3 jours en clinique et c'est tout. On revient 2 fois pour le bébé, donc oui. rendez-vous pédiatre de l'hôpital. Après, le suivi est fait par le pédiatre que l'on choisit. Par contre, pour la maman, c'est la première visite 40 jours après l'accouchement avec son gynéco, quoi, c'est tout.
Oui, c'est ça. Et on va te demander, OK, est-ce que tu veux un autre enfant ? Voici la contraception qu'on te propose.
Voilà.
Et joyeux Noël, quoi.
Exactement. Alors, bon, moi, étant donné que j'avais toujours mon gynéco privé, donc j'ai toujours le même, en fait, donc je vais chez lui. Donc, la visite n'était pas non plus hyper speed comme ça. Mais bon, voilà, quoi. Et puis, pareil, c'est à nous c'est à la femme, en fait, de se bouger, quoi. C'est-à-dire que, il y a une fois, moi, je sais plus, je pense que c'était pour la première. En fait, je me sentais tellement bien que je sentais pas tellement cette obligation d'aller chez gynéco. Je me disais, oh là là, c'est bon, j'irai plus tard. Et je suis allée, effectivement, très tard après, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment de suivi. Enfin, le suivi, en fait, c'est la femme, la jeune maman qui décide, en fait, quoi, si se faire suivre ou pas. Personne ne va t'appeler ou te dire, dis donc, il faudrait peut-être faire une visite après l'accouchement, quoi. Non.
C'est ça que je trouve un peu... Je pense que nécessairement, on devrait mettre en place
carrément,
au moins un suivi psychologique.
Exactement. Enfin, moi, je me rends compte que mon premier accouchement a été tellement idyllique, en fait. J'étais tellement bien que je ne me suis pas rendu compte. Après, par contre, quand je suis revenue à la maison... Alors, du coup, comme je te disais, je n'habitais pas encore avec mon mari, en fait. Donc, notre maison était encore en travaux parce que, bon, on avait acheté un appart entre-temps, mais voilà, il y avait forcément un temps de... Puis, ma fille est née en juillet, donc après août, bref. Donc, on a habité ensemble en septembre, en fait. Et donc, j'étais chez ma mère. Donc, heureusement, parce que j'étais aidée par ma maman.
Ouais,
mais sinon on se sent perdu, quoi, parce que même pour l'allaitement, même pour plein de choses, en fait on passe, c'est ce que je disais à ma sœur, tu vois, il y a quelques jours, je lui disais, c'est vrai que quand on est à l'hôpital, on a toujours quelqu'un qui rentre, enfin, entre les puéricultrices, les sages-femmes, la gynéco, tu vois, il y a toujours quelqu'un qui vient voir si tout va bien.
Ouais.
Et puis après, bon, on rentre à la maison et on est complètement perdu, quoi. On est un peu laissé à soi-même, en fait.
Mais oui, mais alors du coup, ça allait être une de mes questions, mais pour l'allaitement, est-ce qu'ils vous proposent, genre, je sais qu'en France, ils ont des PMI et je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais visiblement, c'est là où les jeunes mamans vont.
Oui, j'ai compris.
S'il y a une question.
Oui.
Mais nous, on n'a rien, quoi. Enfin, je veux dire.
Alors,
je sais
en
qu'on
Italie.
On a des conseillères en lactation, mais il faut les payer, tu vois, et il faut qu'elles viennent à domicile et ça coûte la peau des fesses, quoi.
Voilà. Alors ici en Italie, on a ce qu'ils appellent le consultorio, qui est pas du tout payant. Hein. D'après ce que je sais, certainement, parce que j'y suis jamais allée, donc je voudrais pas dire de fausses infos. Mais je pense que ça ne s'est pas, parce que même c'est très utile pour les jeunes filles qui n'ont personne à qui parler de contraception, etc., etc. Donc c'est des endroits qui sont assez utiles. Et c'est bien aussi justement pour les jeunes mamans qui allaitent et qui ne peuvent pas aller chez le gynéco ou chez quelqu'un, chez une sage-femme. Enfin bref.
Ouais.
Mais sinon, on n'a pas tellement de conseils. Alors, on est à l'hôpital, on a toujours beaucoup de conseils pour le coup. D'ailleurs, alors par contre, en Italie, donc c'est un peu le revers de la médaille. Comme je te dis, on est très axé sur tout ce qui est naturel, etc., etc. On est très axé aussi sur l'allaitement. Moi, j'ai toujours voulu allaiter et ça s'est toujours très bien passé, donc j'ai eu de la chance.
Ouais.
Mais c'est vrai que je connais beaucoup de mamans qui ont eu énormément de difficultés, qui se sont senties vraiment un peu abandonnées ou même un peu genre mauvaise mère, quoi, parce que elles arrivent, parce que voilà, elles ont ont des difficultés pour l'allaitement et que on t'aide pas beaucoup, quoi, si jamais tu choisis autre chose ou tu choisis un allaitement artificiel.
Ouais, mais je pense que ça dépend des pays et il y en a ont plus de retard que d'autres.
Je pense.
Alors aujourd'hui, les enfants ont respectivement 9, 6 et 2, c'est ça ?
Oui.
Et tu les as mis dans des cursus français, du coup, ou tu les as mis à l'école italienne ? Comment ça se passe ?
Alors, on a choisi l'école italienne. Moi, j'aurais forcément préféré l'école française, pas tellement pour un discours scolaire, parce que je trouve qu'il y a des très, très bonnes écoles en Italie, mais plus pour un discours de langue, forcément. Oui. Maintenant, voilà, comme je te disais au début, en fait, maintenant, je n'habite plus à Milan, mais j'habite en fait dans une petite ville un peu résidentielle, juste à côté de Milan. Donc, on est vraiment très, très près de Milan, mais on est au vert, si tu veux. Donc, c'est mieux pour les enfants, c'est mieux pour tout le monde. Et moi, je n'ai pas de voiture. Alors, j'ai mon permis, mais je n'ai pas de voiture, donc ça devenait compliqué. L'école française est quand même assez chère aussi, il faut le dire.
Ouais.
Parce que moi, voilà, je ne suis plus, je suis forcément pas expat. Maintenant, je ne suis plus, donc j'ai pas d'aide.
Ouais.
Pour moi, c'était assez difficile. Étant donné que mes enfants, justement, voilà, sont considérés italiens, quoi, pour l'Italie. Et donc voilà, on a choisi un cursus italien. Et oui, bon, je suis très contente de l'école. Pareil, ce que je pensais pas. mon côté français pensait que l'école française était forcément supérieure au niveau italien. Et j'ai été agréablement surprise.
C'est cool. Comment tu renforces le français à la maison ?
Alors pour le coup, au début, j'étais partie avec beaucoup d'idées. Dans ma tête, en me disant, parce que alors par exemple en Italie, on a aussi, en Italie, à Milan, pardon, à l'école française, ils font aussi des cours, en fait, si tu veux, de samedi, quoi, des cours de français, justement pour les enfants français qui sont dans un cursus italien et qui ont envie de renforcer le français. Donc je pensais ça, pour moi, c'était formidable. Après, forcément, la vie et le fait d'avoir des enfants m'ont appris que c'était moins facile au quotidien, en fait. On se fait beaucoup d'idées au début, et après, on se rend compte que non, c'est pas si simple que ça. Puis bon, voilà, quoi, Milan, c'est grand comme ville, quand même. Donc, même si je suis vraiment, moi, j'habite une petite ville qui s'appelle Arese et qui est vraiment accrochée à Milan. Mais voilà, quoi, selon la zone où je dois aller à Milan, c'est pas si proche que ça, quoi. Donc, ça devenait très compliqué. Donc, en fait, alors, ce qui est un peu dur pour moi, je dois l'avouer, c'est le fait que mes enfants soient plus italiens que français. Parce que, bah forcément, ils vont à l'école en Italie, ils regardent la télé en italien, ils ont des amis italiens, ils vivent, voilà, banalement, ils vivent en Italie, quoi. Leur papa est italien, moi, avec leur papa, je parle en italien. Donc, en fait, la première langue est l'italien. Ma première fille est totalement bilingue parce que je lui ai parlé en français, voilà, quoi, dès qu'elle est née. Et ça a été plus simple. Le deuxième, beaucoup moins. Parce que, après, quand ils étaient deux, entre eux, ils ont commencé à parler italien. Avec le papa, ils parlaient italien. Donc, c'était... Et là, maintenant qu'ils sont trois, effectivement, je continue à dire au plus grand, mais parlez à la petite sœur en français. Mais c'est, en fait, pour eux, automatiquement, ils vont parler en italien. Donc, en fait, ce que j'essaie de faire pour renforcer, c'est que, par exemple, les dessins animés, par exemple, tous les films Disney, je les achète en DVD en français. Ou les livres sont en français. Donc, le soir, la petite histoire du rituel du coucher est en français. Les DVD sont en français. Et heureusement, en fait, ils ont quand même mes parents qui le voient beaucoup, en fait, ici.
Ah, c'est vrai, oui.
Donc, ils leur parlent en français, en fait.
Ça, c'est cool, ouais.
Ouais.
Et ils n'ont pas des petits copains français ? T'as pas essayé de leur contrôler leur cercle leur cercle social.
Ben c'est pas tellement, disons que c'est pas facile parce qu'on est, étant donné qu'ils vont à l'école en Italie, forcément leurs amis sont tous italiens, quoi. Donc si j'ai par exemple ma meilleure amie je te parlais tout à l'heure, avec une petite fille qui parle, pour le coup, par contre, elle parle plus français qu'italien.
Parfait.
Et quand ils se voient, ils parlent aussi en français. Après voilà, quoi, ils commencent à avoir aussi des petits cousins, donc quand on voit les cousins, c'est en français aussi.
Mais de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de bilinguisme 50-50. Hein. Je pense qu'en général, c'est 70-30 ou 60-40. Quoi. Enfin...
C'est ce qu'on dit. Alors après, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, en fait, on se rend compte, je ne sais pas si c'était ton cas pour toi, mais quand on devient maman, en fait, alors moi, pour le coup, avant, j'ai commencé à parler beaucoup plus italien, je me suis très intégrée en Italie. je commençais à penser en italien, à réfléchir en italien,
ouais.
à parler spontanément, en fait, à vraiment intégrer le pays et la langue. Quand je suis devenue maman, au moment vraiment, enfin voilà, vraiment au moment de l'accouchement ouais. presque, hein, tu deviens, et là, t'as les racines français, qui les ressortent. Voilà, non, mais les racines qui sortent, et en fait, on a envie, on est vraiment dans la transmission en ce moment-là, c'est dingue, je trouve. Ouais. Parce que, on a vraiment les racines qui ressortent, et on a envie qu'en fait, que nos enfants, voilà, quoi, fassent partie vraiment de notre histoire, et donc, parlent le français, enfin, en fait, moi, bon, il y a des fois, ce qui m'embête, ou ce qui me rattriste des fois un peu, ce qui m'attriste plutôt, c'est, bah, de pas pouvoir partager des choses de mon enfance avec eux, par exemple, parce qu'ils le connaissent pas, ou parce que tel film, ils l'ont vu en italien, ou parce que, ouais. donc,
c'est frustrant.
Voilà. Voilà, exactement. Comme tu dis, c'est frustrant. Donc, j'essaye, en fait, voilà, quoi. Maintenant, ma fille, la plus grande, donc à 9 ans, donc maintenant, elle sait très bien lire en italien, elle adore lire. Donc, je commence petit à petit à lui prendre des livres en français, par exemple. Des livres que ouais. j'aimais quand j'étais petite. Donc, voilà, j'essaye, en fait, d'être de l'autre côté de la balance, quoi. Comme ça, avec des petites choses. Donc, la petite est à fond sur Petit Ours Brun, ce qui est super.
Toupi. Mais, et puis, j'imagine qu'aussi que ton mari n'a jamais appris le français.
Non, alors si, parce qu'en fait, si. En Italie, pour le coup, dans les langues étrangères, c'est anglais forcément en premier, et après on a tout de suite le français.
D'accord. Mm. Bon, bah ça va, alors il peut te faire un peu de renforcement.
Voilà, voilà. Bon, après, c'est vrai que je pense que, en fait, en me fréquentant ma famille, etc., le français un peu, il a comment dépoussiéré son français, on va dire. Et, ouais. et donc, il parle assez bien le français. C'est vrai que je me rends compte que quand on part en France, dans ma famille, etc., etc., il a aucun problème, en fait, à soutenir une conversation tout seul en français, quoi.
Ça, c'est quand même vraiment cool, hein, parce qu'imagine le reste d'entre nous qui,
oui.
qui bataille encore tous les jours à apprendre, à demander à son mari c'est à clair. Apprendre la langue, quoi. Donc, t'as bien raison. Non, mais alors, aujourd'hui, alors, tu dirais que tu te sens plus italienne ou française ?
Mais comme je te dis, avant de devenir maman, je t'aurais dit italienne. Là, je travaille maintenant, voilà, mon travail est en italien, mes amis sont italiens, donc je suis vraiment ancrée un peu dans la culture italienne et dans le pays. Et franchement, c'est vrai que je pense que je ne le quitterai pas là maintenant, tu vois.
Ouais.
Par contre, le fait d'être devenue maman a vraiment, a fait ressortir mon côté français. Et donc, non, je me sens française, absolument.
Mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui, ta vie, tu l'as passée quand même plus longtemps plus, ouais. en Italie qu'en France.
C'est vrai. C'est ce que je dis à tous les Italiens quand je dis comme ça. Oui, de toute façon, toi, t'es française. Oui, attends, mais j'ai vécu plus en Italie qu'en France quand même.
Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des jeunes adultes qui doivent suivre leurs parents en expatriation comme ça a été ton cas ?
Alors, je vais dire que sincèrement, je pense qu'il faut prendre son temps. Il faut laisser faire les choses, vraiment. Parce que je me rends compte que tout le monde a un temps différent. Enfin, pour moi, ça a été très dur au début, tu vois. Et après, au final, je me suis très, très bien intégrée. Et maintenant, voilà, je considère vraiment l'Italie comme mon pays. Ouais. Je me rends compte que pour mes sœurs, l'intégration a peut-être été plus facile ou plus rapide au début. Et puis après, au final, elles ont préféré rentrer en France. Donc, je pense qu'il faut vraiment que chacun respecte ses temps. Il faut pas faire de forcing, forcément. Laisser ouais. faire les choses et
ça viendra.
Et voilà. Ouais. Pas non plus, voilà, quoi. Pas forcer, en fait. Pas forcer d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire d'essayer d'intégrer les enfants, de leur faire trop de choses. Je pense que, au final, les enfants ont vraiment cette capacité aussi d'adaptation qui est beaucoup plus fort que ceux des adultes, mais aussi un peu de la curiosité, non? Et c'est important de les laisser un peu s'éveiller tout seuls, je pense. Alors oui, ouais. en leur proposant des activités, etc., etc., mais vraiment en les laissant prendre leur temps, parce que voilà, pour moi c'était très très dur de m'adapter en Italie. Enfin, au début il y a eu un moment où je détestais le pays, quoi. J'en voulais même un peu mes parents, si tu veux. Et puis voilà, au final maintenant je suis contente et je sincèrement voilà que je changerais rien de ce qui s'est passé.
Ouais, tu veux pas retourner à Creil?
Non. Et aujourd'hui je regardais sur Google Maps d'ailleurs, j'avais mis les images là. Et j'ai eu vraiment un moment, le coup de cœur, quoi, la nostalgie, mais terrible. Et par contre, voilà, bon, je sais ce que j'ai laissé à l'époque et je pense que si j'y retournais maintenant, ce serait déjà un peu autre chose et je pense qu'il vaut mieux que je reste sur mes souvenirs.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Ben écoute, je ne vais pas dire à notre enfant parce que sinon je pense que mon mari va prendre un billet pour le Mexique et je ne le reverrai plus. Donc, même si ça a toujours été mon truc, ça, les grandes familles. Mais j'aimerais aussi peut-être dire les voyages, j'ose même pas trop le dire parce qu'en ce moment, voilà.
Ouais.
Je suis très déjà, j'ai beaucoup de gratitude en fait parce que je suis très heureuse de ce que j'ai, de la famille que j'ai. On va bientôt changer de maison, avoir une maison plus grande. J'ai toujours d'ailleurs, voilà, justement, ce qui a un peu à voir avec tout mon parcours, c'est que j'ai absolument voulu avoir une maison énorme, je m'entends, hein. Malheureusement, on fait ceci selon les moyens. Mais, une maison, en fait, qui puisse accueillir beaucoup de monde, en fait. Et voilà, c'est ça. Peut-être, ce qu'on peut me souhaiter, c'est ça, que je devienne un peu un port d'attache, même pour mes enfants.
C'est l'auberge
plus tard,
italienne.
Tu vois. Exactement, exactement. C'est ce que j'aimerais. Et j'aimerais que mes enfants, justement, grandissent un peu avec ce sens de la famille. Et que même si, ils décident, je serais très triste, hein, mais je l'ai. J'accepterais, même s'ils partent au bout du monde. Voilà, j'aimerais qu'on continue un peu dans cette idée de vraie famille un peu agrandie.
Ouais, oh, c'est un beau projet. Ben, écoute, en tout cas, moi, je te remercie pour ton témoignage. C'est très sympa d'avoir un peu le témoignage d'un enfant d'expatriation. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ça.
Merci, ça a été très, très sympa.
Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao !